Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Pendant ce temps de l'Avent, Radio Présence vous propose de parcourir les lieux que la Sainte Famille a parcourus autour de la Nativité. Nazareth, Aïn Karem, Bethléem, nous visitons pas à pas ces endroits cités dans l'Évangile à propos de l'Annonciation, la Visitation, la Nativité, les Saints Innocents et la Fuite en Égypte. Aujourd'hui, Bethléem. Et pour ce pèlerinage sur les lieux saints de la Nativité, nous sommes avec le frère Dominique Marie Cabaret. Bonjour frère.
Bonjour.
Vous êtes dominicain de la province de Toulouse, vous avez vécu 10 ans à Jérusalem, vous avez été chargé du cours de topographie et d'histoire du Proche-Orient ancien à l'école biblique et archéologique de Jérusalem. Merci beaucoup de votre venue à Radio Présence aujourd'hui.
Il n'y a pas de quoi.
Alors, on part pour Bethléem. Bethléem, il y a d'abord cette église de la Katisma. Elle est, alors justement, on n'est pas encore à Bethléem. Hein. Elle est à mi-chemin de Jérusalem et de Bethléem. Qu'est-ce qu'elle est supposée représenter?
Alors oui, l'église du Katisma, en toute du rigueur, Katisma. Parce que donc, si on, enfin bon, c'est une petite précision. Elle est construite, cette église, elle n'existe plus aujourd'hui, il n'y a que des ruines, mais quand même des belles ruines, une église octogonale, et elle est construite sur le lieu traditionnel où les chrétiens de Jérusalem ont vénéré l'endroit où la Vierge Marie s'est assise, donc c'est le sens du mot grec, fatiguée, peu de temps avant de donner naissance à Jésus. Et donc, c'est au troisième millière, sur la route de Bethléem, donc à un endroit qui est un carrefour, et où donc une église a été construite au 5e siècle. Alors, vous pourrez me dire que c'est un peu tardif, mais en fait, je pense, et je ne suis pas le seul à le penser, que ce genre d'église vient couronner en fait, une dévotion qui a été faite, et on en a la preuve au sens où un grand prédicateur de Jérusalem, qui s'appelle Ézéchius, donc a prononcé une homélie dont on a conservé le texte, peu de temps après le concile d'Éphèse, en 431, avant même que l'église dont il y a des vestiges aujourd'hui ait été construite, parce que donc on sait que l'église du Katisma donc est octogonale, qui donc vénère un lieu précis, donc l'endroit où la Vierge Marie se serait assise fatiguée, a été construite d'une manière assez précise, donc peu de temps avant 460. Par une dame qui s'appelait Ikelia et qui était la femme du gouverneur, une sainte chrétienne qui dépensa, c'était la coutume aussi, que ce soit des riches qui dépensent de l'argent pour construire des églises. Donc sous l'épiscopat de Juvénal. Voilà, donc en fait, voilà, c'est un lieu saint. Aujourd'hui, on peut s'arrêter. Alors il est sur le bord de la route, il a été redécouvert il n'y a pas très longtemps, dans les années 60-70, parce que la route a été élargie, et en élargissant la route, on a vu qu'il y avait, donc des vestiges d'une église byzantine.
Donc une découverte par hasard, en fait. Hein.
Voilà, c'est un peu par hasard, ça avait été un peu oublié, même s'il y avait la tradition, puisqu'il y avait les textes dont on parlait. Et aujourd'hui, c'est un terrain qui appartient aux Grecs orthodoxes, mais qui est ouvert à tout vent, donc ça veut dire qu'on peut s'arrêter. Alors, il y a des belles mosaïques, d'ailleurs,
elles sont couvertes.
Non, c'est des mosaïques de cette époque-là, donc ils sont plutôt... il y a un palmier, mais sinon, c'est des mosaïques qui sont à motif géométrique, et c'est ne se conserver que les mosaïques qui sont par terre, du sol, parce qu'il n'y a aucune élévation. L'église est rasée jusque, on voit la trace, mais c'est pas haut. Hein, donc les vestiges ne sont pas très hauts, juste une assise ou généralement peut-être un peu plus à deux ou trois endroits. Mais voilà, donc en fait c'est un beau lieu, ça permet aussi de la Vierge Marie était une femme et donc enceinte. Pas loin de son terme, elle devait avoir besoin de se reposer.
Vous pouvez rappeler la distance qu'elle devait parcourir
Alors, entre si elle venait de Nazareth, c'est loin, c'est plusieurs jours de marche. Alors, je pense qu'elle devait être en partie sur un âne, une monture. Hein. Parce que donc, enfin, c'est pas forcément recommandé à une femme qui est pas loin du terme de sa grossesse de marcher.
Oui, je ne sais pas si l'âne est plus confortable hein, quand même.
Oui, mais enfin l'âne, bon, l'âne, si parce qu'il y a des manières d'amortir. Enfin bref,
ah, oui, voilà. D'accord.
Et puis il y a une manière aussi de tenir l'âne, c'est-à-dire que je ne veux pas dire que l'âne n'était pas tenu.
Oui.
Donc,
c'est ça.
On pouvait aussi tenir l'âne au sens de le mener.
Ah oui, c'est ça. Ouais. Ouais, ça devait être effectivement une attention à avoir, en tout cas pour Saint-Joseph vis-à-vis de son épouse. Avant d'être évoqué à l'occasion de la naissance de Jésus, est-ce que la Bible parle de Bethléem ?
Alors oui, enfin, Bethléem, alors, c'est quand même un lieu important, puisque donc, c'est le lieu de la maison de David, avec justement cette promesse faite à David que un roi éternel sortira de sa lignée. Or, David était justement de Bethléem, hein, donc, et la promesse est vraiment faite à David, donc c'est dans la Bible, c'est dans l'Ancien Testament, donc c'est une prophétie. Et ensuite, il y a en effet la prophétie de Michée, du prophète Michée, donc, qui date aussi... qui est assez vieille, hein, puisque elle, c'est l'époque du prophète Isaïe, hein, à peu près. Mais toi, Bethléem Ephrata, le plus petit d'entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui doit être souverain en Israël. Donc c'est le verset 1 du chapitre 5, et ses origines remontent aux temps anciens, aux jours antiques. Voilà, donc en fait, il y a une prédiction, une annonce prophétique, comme quoi Bethléem, eh bien, jouera un rôle particulier donc dans justement le surgissement de celui qui doit eh bien, nous sauver et donc évidemment être le Messie. Mmh. Voilà.
Est-ce que, frère Dominique Marie, on a une certitude sur ce lieu, Bethléem, et notamment la basilique de Bethléem, sur ce lieu de la naissance du Christ ?
Alors d'abord, c'est Bethléem. Donc voilà, donc ensuite ça c'est dit dans les évangiles.
Voilà, oui.
Donc évidemment, bon, on peut remettre en cause ça, mais enfin bon, à ce moment-là, on n'a pas fini, on remet en cause beaucoup de choses. Ensuite, oui, c'est le lieu traditionnel, c'est-à-dire que c'est le lieu que les chrétiens du 4e siècle, quand Constantin a autorisé la religion chrétienne, et donc avec l'entremise de Sainte Hélène, sa mère, c'est le lieu que les chrétiens ont désigné comme authentique. Alors, quand on voit l'emplacement, eh bien, c'est une grotte, alors qu'une grotte qui a été beaucoup remaniée, parce que, bon, je vous raconterai peut-être tout à l'heure l'histoire de ce qui s'est passé, mais quoi qu'il en soit, c'est une grotte, et on sait aussi par Saint Jérôme que cette grotte a été donc transformée en lieu de culte par Adrien, lieu de culte à Adonis, donc avec tout le mythe d'Adonis, hein, ce demi-dieu, enfin... qui, non, pas ce demi-dieu, mais cet enfant incestueux.
Donc ça, c'est au deuxième siècle. Hein.
Oui, oui, mais ouais. Deuxième siècle. Mais donc ça veut dire qu'en fait, cette grotte a été transformée. Et avant cette grotte, il y avait donc une grotte, puisqu'elle existe toujours. Et il faut bien comprendre que dans l'habitat de Bethléem, il est très courant. Comme ailleurs d'ailleurs, comme à Nazareth, mais comme voilà, mais en tout cas à Bethléem, moi j'en ai vu des endroits où vous avez la maison avec dans le fond la grotte. Et c'est toujours pareil, la maison, eh bien, c'est habitable, c'est facilement habitable, mais la grotte présente l'avantage d'être un lieu qui est frais l'été et qui est chaud l'hiver, et dans lequel on peut mettre plein de choses, et on peut mettre en particulier les bêtes.
Oui, c'est ça.
Donc en fait, c'est une grotte et qui... a été désigné par les chrétiens au IVe siècle comme étant le lieu authentique, et on sait par Saint Jérôme donc que ce lieu qu'il a habité, hein, Saint Jérôme, je vous rappelle que Saint Jérôme est quelqu'un qui a habité Bethléem, donc ça veut dire que même si les chrétiens du IVe siècle se sont trompés, Saint Jérôme nous permet de savoir quelle était la tradition orale de son époque. Hein, et bien Saint Jérôme dit que il y avait donc à l'époque d'Adrien, depuis l'époque d'Adrien jusqu'au règne Constantin, il écrit ça dans une lettre. Un sanctuaire avec une forêt sacrée, donc c'est en lien avec justement aussi le mythe d'Adonis, qui était à cet emplacement-là. Et alors après, ça pose la question de Adrien, est-ce que Adrien savait quand il a voulu faire ça que c'était un lieu vénéré par le Christ ?
Oui.
Si on se réfère à ce qu'a fait Adrien à Jérusalem, bah, pourquoi pas ? Hein, parce qu'à Jérusalem, Adrien a quand même construit a mis quand même sa propre statue sur le lieu le plus saint du temple juif.
Ah oui.
Donc c'est quand même quelque chose de très fort.
Oui, c'est pas forcément.
Bon, il y a des archéologues qui prétendent que c'était le lieu du temple capitolin, mais moi je prétends, enfin voilà, que c'est vraiment l'emplacement où il y avait la statue du temple, la statue d'Adrien, la statue équestre. Hein, donc ça veut dire que c'était particulièrement injurieux pour la foi juive. Et Adrien, de l'autre côté, donc du côté des lieux saints chrétiens, il a construit le temple de Jupiter. Et on sait aussi par saint Jérôme que c'est l'emplacement où il y avait justement la statue de Jupiter était à la verticale du tombeau. Il écrit ça dans une lettre à saint Paulin de Nol. Donc, saint Jérôme peut raconter des carabistouilles, en effet, ou bien se tromper peut-être, mais en tout cas, c'était la foi des chrétiens du IVe siècle. Et les chrétiens à Jérusalem ou à Bethléem, en fait, il y a eu une continuité.
Une tradition orale.
Oui, avec une tradition orale. Alors qu'il y a eu sans doute une rupture des chrétiens à Jérusalem au moment de la prise de Jérusalem en 70, où les chrétiens, suivant le conseil de Jésus, ont fui Jérusalem. Mais ça n'empêche que c'est une période assez courte. Et on sait qu'on a une liste d'évêques qui, a priori, est continue. Hein, donc en fait, il y a eu une tradition orale et moi je ne vois pas pourquoi la tradition orale se serait trompée puisqu'il y avait une continuité et que les chrétiens qui étaient là étaient des chrétiens qui habitaient un lieu emblématique pour eux. Et donc je ne vois pas pourquoi ils ne se seraient pas appliqués à transmettre à leurs enfants qui catéchisaient l'endroit où ça s'était passé. Mmh. Surtout qu'ils avaient l'orgueil, enfin si on peut dire, la fierté, on va plutôt dire, d'être dans le lieu où ça s'était passé. Mmh.
Oui, donc on entend bien une tradition orale entre les chrétiens, un lieu qui avait été annoncé dans la Bible, une grotte qui avait été transformée par Adrien au IIe siècle, et puis la présence de saint Jérôme. Donc ça, c'est dans les années...
Alors, la saint Jérôme, c'est à la fin du IVe siècle,
voilà,
après la construction de la première basilique,
voilà,
qui va être faite donc sur ordre de Constantin, et qui va être consacré en 439, donc en présence, on pense, de Sainte Hélène, la mère de Constantin. Donc là, c'est une première église, alors qui va être aussi octogonale, la première église. Ce n'est pas l'église actuelle, même si l'église actuelle est sans doute l'une des plus vieilles, ou la plus vieille église chrétienne encore en activité, sans interruption, depuis qu'elle a été consacrée. Donc on peut même y faire remonter ça au IVe siècle, même si elle a été détruite par une révolte samaritaine et reconstruite par Justinien, on peut y revenir, mais oui. La première église était octogonale au-dessus de la grotte.
D'accord.
Hein? Et après, donc il y avait un octogone, et puis après il y avait une nef classique qui donnait sur l'octogone. Voilà.
Qu'est-ce que ça signifie, cette forme octogonale, puisque vous en avez déjà parlé pour le lieu de repos de la Vierge?
Oui, alors justement, c'est a priori, une église octogonale, c'est même presque contradictoire, parce que ce n'est pas une église. Au sens où le plan octogonal va sanctuariser un lieu. Donc, si on se réfère au Saint-Sépulcre, eh bien, alors, à l'époque octogonale, elle est ronde, mais elle sanctuarise le lieu qui est au centre. Et au Saint-Sépulcre, il y avait justement une grande basilique qui donnait sur l'espace rond, donc la rotonde, comme on dit. Mmh. Eh bien, à Bethléem, c'est pareil, sauf qu'ils n'ont pas fait rond, ils ont fait octogonal.
D'accord.
Et donc, c'est aujourd'hui, même le dôme de la Roche, qui est sur donc l'ancien emplacement du temple juif, eh bien, c'est un bâtiment octogonal qui vient justement sanctuariser la roche qui est au milieu. Donc, alors bon, pour les musulmans, cette roche a une certaine signification, mais c'est vraiment le but, en tout cas, de ces bâtiments octogonaux.
D'accord.
Et donc, à Bethléem, le but était de sanctuariser ce lieu, donc était ce lieu qui, en fait, est une partie une partie d'un réseau de grottes, hein, parce que il y a plusieurs grottes qui sont attenantes. Et donc, il y avait un réseau de grottes. Et donc, d'ailleurs, la grotte en question, enfin, le réseau de grottes en question, avait une sortie vers le nord et pas aujourd'hui comme c'est orienté. Donc, on voit très bien quand on est dans le réseau de grottes, justement, le réseau de grottes qui est attribué à saint Jérôme.
Ah oui.
Où saint Jérôme aura habité. Mais enfin, il faut aussi garder raison là-dessus. C'est que, comme je disais tout à l'heure, À Bethléem, il y a plein de grottes, mais il y a aussi plein de maisons qui donnent sur les grottes.
Ah oui,
et donc, imaginez que, enfin, moi,
des
je
grottes
ne suis
sous
pas
les
pour,
maisons et voilà, des grottes
ou dans le fond
face
d'une
aux
maison.
Voilà,
et je ne suis pas d'ailleurs pour prétendre que Saint Jérôme vivait dans une grotte. Absolument. Non, il y avait sans doute il a construit un monastère, des bâtiments qui ont d'ailleurs été détruits en partie par les Samaritains. Donc les Samaritains n'ont pas détruit la grotte, ils ont détruit les bâtiments. Donc ça veut dire que Saint Jérôme, il devait habiter dans un bâtiment. Voilà. Et
donc
ensuite,
si on revient sur cette basilique de Constantin là, qui est octogonale, qu'est-ce qu'on en retient aujourd'hui? Parce qu'en fait après elle a été détruite, vous l'avez dit, par les Samaritains.
Elle a été détruite par les Samaritains. Alors on en a retrouvé des vestiges, on a retrouvé donc la forme octogonale, on a retrouvé une partie des mosaïques. Donc tout ça c'est des fouilles qui ont été faites au XXe siècle. Et donc après il y a eu l'église construite par Justinien. Donc au VIe siècle, voilà. Et là, il va transformer l'église. Alors c'est le paradoxe, c'est que donc c'est une église. Donc l'église actuelle est aussi vieille que Sainte-Sophie de Constantinople.
Ah oui.
Sauf que bon, Sainte-Sophie de Constantinople n'a jamais a été transformée en mosquée. En fait, la basilique de Bethléem a été en partie transformée en mosquée. Le transept sud a été transformé en mosquée, et c'est ce qui l'a sauvée. Parce que, donc, justement, quand il y a eu, par exemple, le sultan Hakim qui a détruit le Saint-Sépulcre, etc., etc., eh bien, puisqu'il y avait une partie de l'église, de l'édifice qui était transformée en mosquée, eh bien, les musulmans de l'époque ont dit « Non, il ne faut pas détruire le bâtiment, c'est notre mosquée. » Et donc, en fait, paradoxalement, ce bâtiment a gardé sa consistance de justinienne grâce à ça. Et justement, alors c'est une église très vénérable parce que justement, alors même si elle a été modifiée en partie aussi par les croisés, mais bon, je n'ai pas trop de temps pour.
Elle a gardé
tout ça.
Sa forme octogonale ou pas?
Non. Alors aujourd'hui, la forme octogonale n'existe pas.
Non,
il y a un transept qui est justement de Justinien.
D'accord.
Et je ne vais pas entrer dans le détail, mais Justinien voulait construire une église à la manière de Sainte-Sophie, donc avec des coupoles. Il avait même donné l'argent pour cela. Et alors, c'est un côté intéressant, c'est que les gens de Bethléem, non, ils avaient un côté antiquisant dans la construction des églises, parce que donc l'architecte en question va construire une église de style constantinien. Donc, vous voyez, on est au VIe siècle et il va faire une église antiquisante à la manière
du
4e siècle. Et sans doute, enfin ça, bon, c'est ma thèse, sans doute parce que justement, les chrétiens, il y avait un prototype à Jérusalem qui était le Saint-Sépulcre, qu'on copiait.
Ah oui, c'est ça. Donc,
qu'on ne devait pas toucher, entre guillemets.
Ah oui, oui.
Au point que quand l'architecte est revenu à Constantinople, Justinien l'a accusé de détournement de fonds parce qu'il n'avait pas construit l'église à coupole qu'il voulait et il l'a fait exécuter. Et on sait ça par
ils
une source arabe. Voilà.
Hein.
Et donc, en fait, voilà. Et donc aujourd'hui, c'est l'église que l'on vénère, qui a été remaniée aussi et décorée aussi par les croisés.
Donc avec des mosaïques aussi?
Avec des mosaïques, mais les mosaïques datent du XIIe siècle, donc de l'époque des croisades. Et elles sont de style byzantin, parce que justement, dans la deuxième partie du XIIe siècle, les croisés, tout en étant latins, se sont beaucoup rapprochés des byzantins. Et donc, il y a eu un mixte. Et donc, au plan de l'histoire de l'art, c'est très intéressant. Et ce sont des très belles mosaïques. Alors, elles sont en partie abîmées, hein, mais celles qui restent sont très belles.
Voilà. Et elles donc représentent, alors là, pour le coup, pas de motifs végétaux ou
géométriques.
Non,
là, il y a des scènes historiennes. Il y a aussi notamment les conciles. Des conciles locaux et des conciles œcuméniques qui sont dans la nef principale. Et puis après, des scènes évangéliques qui sont en partie dans les transepts. Et puis aussi des figures, des prophètes, etc. Donc en fait, il y a tout un programme. Et puis aussi des fresques sur les colonnes. Et alors justement, les fresques sur les colonnes représentent des saints, et notamment des saints occidentaux. Donc ce qui montre, et d'Europe du Nord, donc ce qui montre, vous voyez, un melting pot, excusez-moi.
Ah oui,
c'est
ça.
Voilà, donc dans l'histoire de l'art de cette église. Voilà. Donc c'est une église très vénérable, puisque donc... Mais c'est parce qu'elle est, paradoxalement, elle subsiste parce qu'elle a été sous domination musulmane.
Voilà, c'est ça.
Vous
c'est
voyez,
ce qui l'a conservée.
En France, il n'existe aucune, ou quasi aucune, église byzantine. Pourquoi? Parce que la chrétienté française a été extrêmement florissante à l'époque carolingienne, à l'époque romane, à l'époque gothique, où on a construit des nouvelles églises en détruisant les anciennes. Et à Bethléem, eh bien, il n'y a jamais eu la destruction de l'église antique parce que, à cause de l'immobilisme et du, qui était dû à l'occupation musulmane.
Et c'est intéressant. Alors, on va marquer une pause musicale, mais je vous propose qu'on se retrouve évidemment juste après et vous répondrez à cette question de savoir pourquoi il n'y avait pas de place à l'hôtellerie. Hein, avec, puisque vous parliez de grotte, frère Dominique Marie, je vous propose d'écouter le cantique de Jean Racine composé par Gabriel Fauré.
Église, Isabelle Duché.
Les lieux saints de la naissance du Christ, ce sont ceux que nous vous proposons de parcourir pendant ce temps de l'Avent et plus particulièrement aujourd'hui Bethléem. Nous sommes avec le frère Dominique Marie Cabaret, dominicain et archéologue. Nous le disions juste avant la pause musicale qu'il fallait quand même qu'on évoque cet extrait de l'évangile de Luc, hein, le chapitre 2, verset 7. Il écrit « Et elle mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire ». Car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Alors que, quand même, l'hospitalité est une valeur incontournable de la tradition orientale. Oui. Comment peut-on comprendre que la Sainte Famille n'ait pas été accueillie ?
Voilà, alors là, il y a un contresens qu'il faut lever, donc, alors, qui vient du fait de cette tradition qui est l'époque des croisades ou post-croisades. Et en tout cas assez fortement transmise par les franciscains. Alors je n'ai rien contre les franciscains, hein, c'est une c'est une belle tradition de la crèche ou de ce qu'on peut enseigner au catéchisme, comme quoi
la
Sainte Famille est arrivée à Bethléem et qu'ils ont frappé aux portes pour être logés dans des hôtelleries et puis qu'on les a mis à la porte et qu'ils se sont retrouvés finalement dans une grotte où il y avait une étable et que donc à la lumière d'une torche, d'une lanterne, Saint Joseph a pu installer à la va-vite la Vierge Marie et que la Vierge Marie a pu donc donner naissance à l'enfant Jésus comme ça dans des conditions d'une pauvreté extrême.
Alors, donc ça, on comprend que c'est dans la grotte, dans une grotte qui est derrière la maison.
Oui,
hein,
mais
c'est
alors,
ça.
Attendez, c'est que si on s'en tient au texte évangélique, le texte évangélique, il dit une seule chose, il ne parle pas de tout ça. Le texte évangélique dit une seule chose, il dit il n'y avait pas de place dans la salle commune.
Et c'est alors, la salle commune qui est importante.
Voilà, alors c'est en cela que donc si vous discutez avec aujourd'hui des bethléémites, des chrétiens bethléémites, eh bien, ils vont vous dire, vous, occidentaux, là, vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas quelle est la tradition de notre pays qui est donc très proche d'un désert avec une tradition bédouine où d'abord, l'hospitalité, c'est impossible de la refuser. Et qui plus est, à une femme enceinte. Donc, on se doit. Et qui plus est, à une femme du clan de Judas. Donc, à l'époque, une femme du clan de Judas, c'est potentiellement la mère du Messie.
Ah oui, mais c'est ça.
Donc, en fait, il y a refuser l'hospitalité, c'est un crime. Refuser l'hospitalité à une femme enceinte, c'est un deuxième crime. Et dans la mentalité de l'époque où une femme de Bethléem est potentiellement la mère du Messie, ça ne va pas du tout.
Ah oui.
Donc, en fait, non, ce n'est pas ça qui est dit dans l'Évangile. Il est dit, il n'y a pas de place dans la salle commune. Et on comprend bien, c'est-à-dire qu'à l'époque, un accouchement, c'est une affaire de femme. Alors, c'est un accouchement miraculeux, spécial, on est d'accord. Mais en tout cas, même s'il n'y avait pas de femme et qu'il s'est fait dans son coin avec une intervention divine, etc., etc., ça, je n'entre pas dans le détail, eh bien, il ne convenait pas qu'il se fasse devant tout le monde. Or,
et la salle commune, c'était justement ce lieu où tout le monde dormait.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que il ne faut pas imaginer une hôtellerie avec chacun sa chambre et sa salle de bain. C'est quelque chose de complètement moderne. Et donc, ça veut dire que à l'époque, la grande salle de la maison était celle où on mangeait dans la journée et où le soir, on déroulait la natte, et on se mettait et on s'installait. Et d'ailleurs, ce qui vous permet d'expliquer, notamment la parabole, vous savez, de la veuve importune qui vient réveiller toute la famille de soir. Donc d'abord, la lumière est éteinte, donc il ne s'agit pas uniquement de toucher sur un bouton, il s'agit de souffler une lampe à huile. Pour la rallumer, c'est compliqué. Et tout le monde est déjà couché par terre. Donc ça veut dire que vous êtes dans la pénombre.
Tout le monde est réveillé.
Et pour se lever, il faut marcher sur les gens.
C'est ça.
Accéder à la porte, vous voyez. Et donc, la salle commune sert de ça. Et donc, en fait, alors même si on peut avoir le partage des femmes et des hommes, enfin bon, n'entrons pas dans le détail, mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, l'accouchement, la naissance de l'enfant Jésus
ne pouvait pas avoir lieu
en public. Et donc, dans ces cas-là, si vous avez une arrière-salle qui est en fait une grotte où vous avez mis, vous avez les animaux, eh bien, par contre, l'accouchement peut se faire devant les animaux.
Et là, c'est un lieu chaud.
Et la pudeur de la Vierge Marie, enfin, vous voyez, est respectée. Donc, en fait, moi, je ne suis pas en train de vous dire quelle est la vérité. Ce que je veux vous dire, c'est que si on s'en tient au texte évangélique et si on s'en tient à la mentalité du peuple qui est encore là-bas et qui tire aussi ses traditions de l'époque, eh bien, en fait, on en vient à dire que la vision du rejet total et de l'improvisation totale, non.
Ce n'est pas
forcément tenable.
Et en tout cas,
ça correspond bien au bâtiment que l'on a, enfin, à la grotte, au réseau de grottes que l'on a. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un réseau de grottes. Donc, il y a plusieurs grottes qui se tiennent, et sur laquelle donc ce réseau sur lequel donc l'église actuelle, enfin l'église de Justinien, donc pour revenir est construite, et aussi l'église donc la première église de Constantin, sachant que donc Constantin et Justinien, en tout cas Justinien, parce que la forme actuelle de la grotte, c'est Justinien qui lui a donné. n'a pas hésité à casser une partie de la grotte pour pouvoir donner un accès du côté qui était nécessaire pour donner dans l'église. Et comme je le disais tout à l'heure, enfin bon, on n'a pas de carte évidemment à la radio, mais la nef principale et le cœur aujourd'hui de l'église, c'est est-ouest, sachant que l'entrée primitive de la grotte était sur le flanc nord de la colline sur laquelle l'église est construite.
D'accord. Hein.
Et bon, mais c'est simplement, donc ça veut dire qu'il y a quand même des choses de remaniées, ce qui signifie d'ailleurs que la grotte aujourd'hui, eh bien, vous avez d'un côté qui est un mur, enfin une sorte de mur, et avec des aménagements qui donnent que c'est une salle qui est rectangulaire. Mais enfin, ceci dit, quand on accède au réseau de grottes du côté nord, donc du côté qui est la propriété des franciscains, eh bien, on voit bien que c'est le même réseau et que c'est une des salles du fond de ce réseau. Voilà. Donc, voilà.
Oui, donc en fait, c'était une salle qui était... Enfin, c'était une salle, c'était pas une grotte.
C'était un réseau de grottes
voilà,
avec
ça.
Plusieurs salles.
Mmh. Oui, oui.
Voilà. Et, voilà. Et donc, sachant qu'aujourd'hui, bah, comme il y a un hôtel, il faudrait pouvoir démolir l'église actuelle pour voir exactement ce qui reste des vestiges... en dur, mais il y a vraiment des la roche. Hein.
Oui, c'est ça.
Il y a vraiment
d'accord,
la roche.
D'accord.
Il n'y a pas de doute sur le fait que c'est une grotte.
D'accord. Quelques mots quand même sur l'église Sainte-Catherine de Bethléem. Est-ce
oui.
qu'elle a un lien avec la naissance
oui,
de Jésus ?
Oui, alors c'est un peu difficile à expliquer à la radio, mais en fait, les franciscains... l'église de la nativité, au sens propre du terme, donc celle dont je viens de vous parler longuement, celle de Justinien,
construite au-dessus
aujourd'hui est partagée entre les Grecs orthodoxes et les Arméniens. Et les Latins, donc en l'occurrence donc les franciscains, n'ont pas donc l'artie de c'est, n'ont pas l'église, ils ont simplement un droit de venir prier régulièrement dans la grotte. Alors, un droit qui vient de ce qu'on appelle donc un traité qui a été fait au 19e siècle, où il y a eu un partage donc de la manière dont les lieux saints devaient être partagés, définitif. Alors, ça serait trop long. D'en parler longuement, mais quoi qu'il en soit, donc à Bethléem, les franciscains ont le droit de venir prier, donc notamment à midi, dans la grotte, et ils y accèdent par leur réseau de grottes qui
D'accord.
donne sur leur propriété, qui est à côté, et là, il y a justement l'église
Sainte-Catherine,
mais qui est en fait attenante. Hein, l'église Sainte-Catherine est construite à côté. Et le transept nord de l'église donne par une porte dans l'église Sainte-Catherine. Et dans l'église Sainte-Catherine, il y a un escalier qui permet de descendre dans le réseau de grottes et qui permet aux franciscains d'accéder
oui,
à la grotte de la Nativité
en fait.
Par une porte qui est dans le fond, sans entrer au niveau supérieur dans l'église. Donc tout ça, c'est des accords qui ont été faits au moment de la guerre de Crimée au 19e siècle et qui ont fait un partage et qui aujourd'hui est respecté. Alors souvent on dit que les communautés chrétiennes se disputent. Ce qui est vrai et ce qui est pas vrai, mais c'est vrai et c'est pas vrai parce qu'il faut quand même comprendre que ces accords de partage de lieux saints ont le défaut d'avoir la règle que c'est l'usage qui fait la loi. Hein? Donc ça veut dire que quand une communauté a l'habitude de faire telle chose ou à telle heure, tel jour de l'année, etc., de célébrer une messe ou de prier, eh bien elle a le droit de continuer. Mais si jamais elle ne le fait pas et que l'autre communauté en profite pour, eh bien la nouvelle communauté, du coup, acquiert le droit.
Ah d'accord.
Donc ça oblige un peu les communautés à être sur qui vivent, au sens où à vérifier que l'usage a bien été respecté. Et donc à Bethléem, il y a d'autant plus une petite difficulté que les Arméniens ont une toute petite partie de l'église, un hôtel dans un coin, et qu'il y a quelques mètres carrés qui sont disputés entre les deux communautés. Et que donc le jour où il faut nettoyer ces deux mètres carrés, eh bien si où les Arméniens veulent nettoyer ces deux mètres carrés, qui est une manière de montrer qu'ils le revendiquent, si les Grecs ne font pas mine de les empêcher manu militari, mais ce qui est prévu, parce que c'est toujours le même jour de l'année, eh bien ça veut dire qu'ils acceptent la revendication arménienne.
Oh là là.
Donc ça veut dire qu'en fait, y a un petit côté folklorique de la dispute annuelle, dont tout le monde est prévenu qu'elle va avoir lieu, mais qui est aussi la conséquence de cet accord qui a été fait à l'époque où Bethléem et Jérusalem étaient dominés par les musulmans, et qui, avec le principe qu'il est, eh bien, empêche finalement de faire des modifications assez faciles, parce qu'aujourd'hui, ça remettrait beaucoup de choses en cause, notamment le fait que les Grecs, du fait qu'ils étaient sujets de l'Empire ottoman, aient une grande partie, pour ne pas dire une partie au-delà de leur représentativité chrétienne dans le monde, des lieux saints. Et que si on devait faire un partage aujourd'hui, par exemple, en fonction de la taille des communautés catholiques, arméniennes, grecques, etc., etc., eh bien, il est clair que les Grecs orthodoxes devraient redonner une grande part de ce qu'ils gèrent. Et donc, ça veut dire que les Grecs orthodoxes, sur ce plan-là, sont ceux qui, vont pas avoir tendance à vouloir bouger quoi que ce soit.
Oui, c'est sûr qu'il vaut mieux rester discret dans ces cas-là. À Bethléem se trouve aussi la grotte du lait. Alors, on imagine que ce lieu fait référence à l'endroit où la Vierge Marie a allaité l'enfant Jésus et donc à la naissance de celui-ci. Qu'est-ce que c'est que cette grotte ?
Alors, c'est une grotte qui est tenue par les franciscains. Enfin, c'est un réseau de grottes, encore une fois.
Toujours pareil dans ce réseau.
Qui est un peu, donc qui est pour le coup pas au nord, mais au sud de la basilique de la Nativité, donc dans une rue parallèle, on y accède. Et donc là, il y a un sanctuaire, en effet, où on peut prier. Et donc, en fait, oui, la grotte du lait, comme son nom l'indique, si la Vierge Marie habitait là, elle aurait allaité son enfant. Donc il y a une tradition aussi de venir prier là, avec beaucoup d'ex-voto, donc tradition qui porte son fruit, si je peux parler comme ça, donc d'ex voto de gens qui ont des difficultés pour avoir des enfants.
Ah oui.
Et qui donc viennent récupérer un peu de poudre de la roche et en boivent donc mélangé, etc., dans un acte de foi. Voilà. Et donc c'est aussi un lieu de prière, de dévotion.
Est-ce que ça voudrait dire que finalement la Sainte Famille a habité dans cette grotte sous l'actuelle basilique de la Nativité juste le temps de la naissance du Christ et qu'après elle aurait entre guillemets déménagé avant la fuite en Égypte pour ce temps?
Oui, mais alors là on est soumis aux spéculations,
oui,
parce que il y a pas beaucoup de données dans l'Évangile qui nous permettent de dire quoi que ce soit là-dessus. Il est un fait que, on pourra peut-être en reparler dans une troisième émission, mais il est un fait que les parents, la Sainte Famille est au moins restée 40 jours dans la région, puisqu'il y a la présentation au temple.
Voilà, donc
avant une éventuelle fuite en Égypte. Enfin, quand je dis, je remets pas en cause la fuite en Égypte, mais donc ça veut dire qu'il y a forcément
un lieu intermédiaire.
Voilà,
entre
le fait qu'ils aient habité dans l'hôtellerie. Si on respecte ce que dit Luc, pendant 40 jours, c'est peut-être pas là pour le coup. C'est peut-être pas tout à fait.
C'est peut-être pas un lieu adéquat.
C'est pas forcément très réaliste. Voilà.
Ouais,
donc ça veut dire que. On peut penser, et puis on peut aussi penser que Saint Joseph avait de la famille. Donc,
ah oui, ça peut être aussi
Ça peut être ça. Donc vous savez, à l'époque, il y a le devoir d'hébergement.
Là aussi,
alors,
on est dans l'hospitalité.
Vous allez me dire, pourquoi c'est pas le premier jour, pas le premier soir. Oui, là, on est dans le domaine des spéculations. Mais en effet, on peut penser que la Sainte Famille n'a pas continué d'habiter dans la grotte où la Vierge Marie
a donné naissance,
a donné naissance à l'enfant Jésus. Mais après, là, on est obligé de faire confiance à la tradition et on n'a pas de certitude absolue.
En tout cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler justement de cette étape entre la naissance du Christ et la fuite en Égypte. On parlera évidemment de la visite des mages. Je vous remercie en tout cas, frère Dominique Marie Gabaret, de nous avoir conduit à travers Bethléem pour être vraiment sur les lieux de la naissance du Christ.
Il n'y a pas de quoi, merci.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.